Vous écoutez France Culture.
Il est midi et demi, le journal Clarence Rodriguez, bonjour.
Bonjour à tous. Au Zimbabwe, victoire dès le premier tour pour le dirigeant sortant Emmerson Mnangagwa. À l'élection présidentielle, l'opposition dénonce un scrutin truqué. Dans un pays sous très forte tension, nous rejoindrons notre correspondante à Harare dès le début du journal. Élection présidentielle aussi au Mali, on prend les mêmes et on recommence. L'histoire se répète comme en 2013. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta affrontera Soumaïla Cissé le 12 août prochain. Reportage dans un instant. Et puis ce soir, Emmanuel Macron reçoit au fort de Brégançon, résidence d'été des présidents français, Theresa May. La première ministre britannique cherche a priori à séduire ou plutôt convaincre les chefs d'État européens au sujet du Brexit. Précision de Mathieu Laurent. Et puis à 12h45, juste après cette édition, vous retrouverez Romain Debecq-Delièvre et toute l'équipe de la grande table d'été en direct de l'Opéra Théâtre de Metz. Au Zimbabwe, après trois jours d'attente, c'est le président sortant Emmerson Mnangagwa qui l'emporte avec 50,8% des voix. La ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, reste invaincu sur fond de soupçons de fraude. À Harare, la capitale, la correspondance de Lisa Fabian.
Les résultats de la présidentielle zimbabwéenne ont été annoncés au beau milieu de la nuit, sans doute pour éviter toute manifestation spontanée. La présidente de la commission électorale donne finalement le nom du vainqueur. Emmerson Mnangagwa, l'ancien bras droit de Robert Mugabe au pouvoir depuis la chute du vieux dictateur au mois de novembre, remporte cette élection avec 50,8% des suffrages. Réunis devant la télévision, ses soutiens explosent de joie.
Nous sommes très heureux que la ZANU-PF continue à diriger ce pays et je pense qu'il y aura du changement.
Ce n'est pas l'avis de Jane, une femme de ménage d'une soixantaine d'années.
Tout le monde est triste, personne n'est heureux et nous savons tous qu'ils ont triché.
Ce vendredi, le leader de l'opposition a dénoncé sur Twitter la publication de faux résultats non vérifiés, pointant du doigt l'opacité de la commission électorale. Tinashe a voté pour l'opposition, il se dit prêt à descendre dans la rue pour défendre son vote.
Il n'y a rien de nouveau, nous avons connu ça en 2008, nous avons connu ça en 2013, mais j'espère que cette fois nous ne l'accepterons pas facilement, comme nous faisons d'habitude. Si nous restons chez nous tranquillement, en ayant peur de leur tir, nous allons passer encore 5 ans avec les mêmes type au pouvoir.
Un jour avant l'annonce des résultats, 6 personnes ont été tuées lors d'une manifestation de l'opposition brutalement dispersée par la police et l'armée.
Lisa Fabian, correspondante de France Culture au Zimbabwe. Reste à savoir à présent si le jeune Chamisa, qui conteste les résultats, peut capitaliser pour l'avenir sur le mouvement qui s'est agrégé autour de lui pour un changement réel et non de façade. L'analyse de Pierre Boisselet, journaliste spécialiste de l'Afrique australe, à l'hebdomadaire Jeune Afrique.
C'est assez surprenant de voir qu'il a vraiment réussi à obtenir un soutien très important en très peu de temps finalement, puisqu'il a succédé à Morgan Tsvangirai qui est décédé il y a quelques mois seulement. Et en si peu de temps, il a réussi à mobiliser beaucoup de partisans. Je pense que très probablement, en fait, ces partisans-là sont plus favorables au changement dans leur pays qu'ils ne le sont à Chamisa lui-même. Voilà, donc il va devoir essayer de capitaliser sur ce mouvement. Mais si la répression continue, ce sera dur, comme ça l'était pour Morgan Tsvangirai pendant le règne de Robert Mugabe.
Pierre Boisselet au micro de Nabila Hamel. Élection aussi au Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé largement en tête au premier tour de la présidentielle qui s'est tenue malgré les violences djihadistes et communautaires, mais retrouvera au second tour son principal opposant Soumaïla Cissé, comme en 2013. L'histoire semble se répéter. Depuis Bamako, Marie Matigo dresse le portrait des deux candidats.
L'un vient du sud, l'autre du nord. L'un est diplômé en lettres, l'autre ingénieur. On pourrait donc croire que tout oppose les deux finalistes de l'élection présidentielle malienne. Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, est originaire de la région de Sikasso, dans le sud-est du pays. Il fait des études de lettres et de géopolitique au Sénégal et en France. Soumaïla Cissé, 68 ans, vient lui du nord, de la région de Tombouctou. Aussi passé par l'université de Dakar, il décroche son diplôme d'ingénieur à Montpellier. Mais les deux hommes commencent leur carrière politique au même endroit, au sein de l'ADEMA, le parti historique du Mali, fondé après la fin de la dictature en 1991. Ils occupent de hauts postes à responsabilité pendant la présidence d'Alpha Omar Konaré. Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta seront ministres côte à côte, l'un des finances, l'autre des affaires étrangères. L'actuel chef de file de l'opposition sera même ministre dans le gouvernement d'Ibeka. Le chemin des deux hommes se sépare au début des années 2000, quand vient l'heure de la succession. Ibrahim Boubacar Keïta fonde le Rassemblement pour le Mali. Soumaïla Cissé crée, lui, l'Union pour la République et la démocratie. Chacun se lance dans la course à la magistrature suprême et c'est Ibeka qui l'emporte en 2013 avec 77% des voix au second tour face à Soumaïla Cissé qui devient alors le chef de file de l'opposition. Le scrutin du 12 août prochain aura donc comme un air de revanche.
Marie Matigo à Bamako. En République démocratique du Congo, on reparle de l'épidémie d'Ebola selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le décès et les funérailles non sécurisées d'une femme de 65 ans à Mangina fin juillet sont à l'origine de la dernière épidémie de fièvre hémorragique d'Ebola. 7 membres de la famille de la femme décédée sont morts, présentant des symptômes semblables à ceux de la fièvre hémorragique. Nous reviendrons sur ce sujet ce soir dans l'édition de 18h. À l'international toujours, ce nouveau scandale autour de l'industrie pharmaceutique chinoise, ça concerne cette fois une molécule fabriquée en Chine, exportée en Europe pour traiter notamment l'hypertension artérielle. À cause d'une erreur du fabricant, les médicaments qui utilisent cette molécule pourraient comporter un danger très sérieux pour les patients. L'Agence européenne des médicaments s'est emparée de la question, évoquant un risque évident de cancer. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Alors comment en est-on arrivé là ?
Alors tout est parti du fabricant de cette molécule, le laboratoire Huai, basé dans la province du Zhejiang, au sud de Shanghai. C'est l'un des leaders de l'industrie du médicament en Chine, qui exporte beaucoup aux États-Unis. Le 18 juillet dernier, donc, ce fabricant chinois annonce le rappel dans le monde entier de tous les médicaments contenant du valsartan. Il s'agit d'un principe actif qui est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et les insuffisances cardiaques. L'explication est donnée suite à une erreur de manipulation. Une substance considérée comme cancérogène pour l'homme est retrouvée dans la molécule. La substance étant vendue en Europe, l'Agence européenne du médicament est aussitôt saisie. Des investigations sont lancées et effectivement les autorités européennes confirment hier soir que suite à cette erreur, la molécule a été retirée du marché. Il y a bien un risque de cancer. On ne connaît pas à ce stade l'ampleur du risque. L'agence n'a pas encore pu établir la concentration de la substance cancérogène. Elle évoque pour l'instant la possibilité d'un cas supplémentaire de cancer sur 5000 patients. Et ça concerne essentiellement les personnes utilisant le valsartan à sa dose la plus forte. Reste à savoir comment cette impureté a pu se retrouver dans la molécule. Les autorités européennes pensent que cela remonte à 2012, une erreur à l'époque dans le processus industriel au sein de l'usine chinoise. Ce nouveau scandale tombe en tout cas très mal pour l'image de l'industrie pharmaceutique chinoise qui a déjà été écornée le mois dernier par l'affaire des vaccins non conformes écoulés par une firme. Le gouvernement de Pékin a affiché sa fermeté car ces scandales à répétition pourraient commencer à affecter l'économie chinoise dans son ensemble au vu de l'importance que représente aujourd'hui l'industrie pharmaceutique pour le pays.
Merci Sébastien pour ces précisions. Toujours pas de sortie de crise entre les États-Unis et la Turquie. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et son homologue turc Mevlut Cavusoglu se sont entretenus ce matin en marge d'un forum à Singapour. Il a été question de la libération du pasteur américain Andrew Branson en résidence surveillée en Turquie qui est accusé d'espionnage et de terrorisme. Mais Ankara, inflexible, continue de rejeter les menaces de Washington. L'ambiance s'annonce plutôt décontractée, mais la discussion sérieuse. Emmanuel Macron reçoit ce soir la première ministre britannique, Theresa May, au fort de Brégançon, la résidence d'été des présidents français. Alors au menu, les négociations sur le Brexit, qui patinent à l'approche du divorce entre Londres et l'Union européenne. Ces discussions se dérouleront à l'initiative de Theresa May, qui cherche des soutiens. Bonjour Mathieu Laurent.
Bonjour Clarence et bonjour à tous.
Et oui, donc une commission européenne qui campe sur ses positions.
Et Theresa May prit la route avec l'objectif de décrocher une sortie sans accord, un no deal. Theresa May court-circuite ainsi les voies officielles, ce qui aura conduit l'Élysée, pas plus tard qu'hier, à promettre que le chef d'État français ne se substituerait pas à Michel Barnier. Le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne s'invite d'ailleurs dans ces débats supposément informels via une tribune publiée dans 20 journaux européens. Deux temps forts dans ce texte, ce qui n'est pas négociable, strict respect des 4 libertés de circulation, des biens, des capitaux, des services et des personnes, et ce qui pourrait être réenvisagé. On est là dans ce qui s'apparente à une micro-brèche quant à la question brûlante de la frontière avec l'Irlande du Nord. Un no deal, donc. Voilà ce que promeut et défend Theresa May. Et les institutions d'Outre-Manche anticipent, s'y préparent. En témoigne la décision rendue publique ce matin du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre de relever ses taux d'intérêt dans l'optique d'un divorce sans accord et d'une hausse des prix au cas où les négociations s'étaleraient, s'éterniseraient au fil d'une interminable transition. Marc Carney a eu ces mots sur les ondes de la BBC. La possibilité d'une absence d'accord est inconfortablement élevée à ce stade. Lord Ricketts, lui, ambassadeur du Royaume-Uni en France, doute à haute voix que Theresa May n'obtienne quoi que ce soit de la part d'Emmanuel Macron, l'un des dirigeants européens les plus fermes en matière de Brexit, dans le droit fil de Michel Barnier. Mais Theresa May pourrait avoir trouvé un appui, une alliée en la personne de la chancelière allemande, qui propose un accord à l'aveugle, une variante du no deal en contrepartie de quoi le Royaume-Uni servirait d'intermédiaire douanier entre l'Europe et les États-Unis en pleine guerre. Berlin appréciera et, du sur-mesure, ne peut déplaire outre-Manche.
Merci Mathieu Laurent. C'est un chiffre vertigineux. La société à la pomme, Apple, vaut désormais plus de 1000 milliards de dollars. Cela en fait désormais la plus grosse capitalisation au monde, devant ses concurrents Amazon, Microsoft et Facebook. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Marc Chardon, que ce résultat est la consécration d'une stratégie industrielle innovante et d'une stratégie financière tournée vers ses actionnaires ?
Eh bien, si Apple en est là, ce n'est pas seulement par sa capacité d'innovation, ses choix industriels, c'est aussi une stratégie financière qui aurait été gagnante. Déjà un modèle industriel qui a su capter et garder un public sans discontinuer jusqu'à inonder la planète avec des produits très étudiés et des services qui, dans les deux cas, lui ont permis de dégager une marge fort élevée. C'est ainsi que, sur un marché en croissance, la marque à la pomme a engrangé des profits gigantesques, une machine à cash que la société a mise à profit dans une politique de rachat d'actions. Elle l'a fait sur un grand périmètre au point de réaliser la moitié des plus grosses opérations de rachat d'actions de l'histoire américaine. Intérêt d'opération, eh bien, elle réduit le nombre d'actions en circulation et elle augmente en même temps le bénéfice par action. Ça conforte les actionnaires. Pour autant, les succès d'Apple, ils sont à confirmer. Ses rivaux Amazon, Microsoft, avec plus de 800 milliards de capitalisation, se rapprochent du score qu'elle vient de réaliser. Et dans cette surenchère boursière, rien ne dit que demain, Apple ne sera pas dépassé par d'autres groupes. La plus forte capitalisation, elle se profile déjà, celle de la compagnie pétrolière Saudi Aramco. Lorsqu'elle sera introduite en bourse, ce ne serait plus que l'affaire de quelques mois, eh bien le groupe pétrolier pourrait être valorisé à hauteur de 1500 milliards, voire davantage, ce qui résonnerait alors comme la revanche des valeurs pétrolières sur les technologiques, bien sûr.
Merci Jean-Marc Chardon. En France, alors que la loi anti-harcèlement vient d'être votée, des étudiants d'une école de commerce à Lyon font parler d'eux, et pas forcément pour leurs bons résultats scolaires. Sur Facebook, ils fichaient et notaient leurs camarades féminines. Un comportement potache de mauvais goût, le directeur de l'établissement a diligenté une enquête. Les explications de Christophe Vincent à Lyon.
Fausse blonde surmaquillée, créature de Frankenstein, à pervertir ou encore cavalière cherchant sa monture, les commentaires sont explicites, parfois plus salaces ou injurieux. Ces appréciations sexistes se retrouvent dans un fichier partagé sur un groupe Facebook. 120 étudiantes y sont jugées sur leur physique, les yeux, la bouche et d'autres parties du corps, et elles sont notées de 2 à 17 sur 20. Selon Le Progrès, qui révèle les faits, le fichier comprend les noms de 450 jeunes femmes de 17 à 23 ans, avec la date de naissance pour la moitié d'entre elles, et parfois le lien vers leur profil Facebook. La mémorisation de telles données sans l'aval des intéressés est passible de condamnation pénale. Le directeur de l'école nie avoir été au courant de ces pratiques. « Si nous l'avions su, dit-il, nous aurions immédiatement réagi et réuni un conseil de discipline. » Richard Beltante promet une enquête interne après le 20 août. 6 mois après les propos décapants de Laurent Wauquiez, enregistrés par un étudiant, l'EM Lyon se serait bien passé de cette nouvelle publicité.
Chasse et croisée des vacanciers, c'est sans doute le week-end le plus chargé de l'année. 600 policiers seront déployés à partir d'aujourd'hui sur les routes à proximité de Paris, et ce jusqu'à dimanche. En tout, 139 points de contrôle seront mis en place. Pour l'anecdote, lors du précédent week-end, 1500 véhicules ont été contrôlés et 1240 contraventions ont été dressés. C'était pour ainsi dire déjà chaud sur les routes et cela va continuer côté météo. La canicule toujours et encore avec 66 départements placés en vigilance orange par Météo France. Le record du 21 juin 2017 est quasiment égalé. On se souvient que 67 départements avaient été en vigilance orange au même moment. Les températures maximales seront comprises entre 35 et 40 degrés dans les régions PACA, Occitanie, Bourgogne, Grand Est et Île-de-France notamment. Alors si les prévisionnistes annoncent un léger fléchissement pour ce week-end sur le nord, les températures caniculaires devraient se poursuivre jusqu'à mercredi prochain. Seule la partie nord-ouest de l'Hexagone sera épargnée par cette alerte. Voilà, fin de cette édition préparée par Yacine Bouzard. Je vous retrouve avec l'ensemble de la rédaction à 18h pour un nouveau journal. Très bel après-midi à tous.